Alors aujourd'hui, je vous invite à utiliser à utiliser nos sens. Bien sûr, il y a combien de sens? 5. Bon, je vais en utiliser que 2. Pourquoi ça? Parce que il se trouve dans un verset biblique. Et ce verset que je vais vous montrer, hein, c'est un verset qui nous fait du bien et qui rejoint un peu à tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Et ce verset, je le retirerai du psaume 34, qu'on va le décortiquer, mais le titre du message, il se trouve au verset 9. Alors, psaume 34, le verset 9. Tu l'as, Roland? Tu peux le lire, s'il te plaît. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai de deux sens. C'est quoi les deux sens? Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Ces psaumes, vous savez, c'est un bijou. Pourquoi? Parce qu'il contient des bénédictions pour tous ses enfants. Et dans ces psaumes, on peut voir la profondeur, la grandeur de ce Dieu qui fait tout pour ses enfants. Et ces psaumes, on peut le lire hein, lorsqu'on est dans l'abattement, lorsqu'on est dans le découragement, lorsqu'on est dans le doute de la présence de Dieu et que Dieu écoute nos prières. Lorsqu'on est dans ces situations-là, vous lisez les psaumes 34 et vous n'avez qu'une seule chose à faire, une fois l'avoir lu, c'est de louer le Seigneur. Pourquoi? Il nous le dit lui-même, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Et vous savez, de ces psaumes-là, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais ils ont retiré deux cantiques qu'on chante très souvent. C'est le 316, ce cantique qu'il dit « Tourne les yeux vers le Seigneur et votre visage rayonne ». Ou sinon, le 340, il dit que « Dieu est bon et nous voulons le servir ». C'est de ces psaumes-là qu'il a été retiré. Maintenant, je vous invite à décortiquer. On ne va pas le lire, ces psaumes. Pourquoi? Parce qu'on va lire les versets et les commenter un peu. Hein. Nous allons les décortiquer et sûrement, j'ai été béni et vous allez l'être aussi. Si vous ne l'êtes pas béni maintenant, lisez-les à la maison car Dieu... Il nous dit, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Alors, nous allons déjà au verset 9, on vient de lire, il nous dit, goûtez et voyez, constatez combien le Seigneur est bon. Goûtez, qu'est-ce que c'est qu'on fait lorsqu'on goûte? On peut goûter un plat, on peut goûter un mets, et alors, en le goûtant, on peut dire, ah, il est bon. Ou sinon, il est excellent. Ou alors, on peut dire, oh non, c'est pas bon. Ou alors, je ne l'aime pas. Voilà, c'est exactement, c'est ce qu'on dit lorsqu'on goûte cela. Goûter et voir, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, goûter et voir, ça veut dire avoir un pari sur la bonté de Dieu. C'est un pari à prendre. Il nous le dit, goûter, et voyez, et constatez, c'est un pari sur la bonté de Dieu, et c'est aussi miser sur la grâce de Dieu. Car, comme on dit toujours, si vous êtes là, si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce dans notre vie. Et c'est ça que nous devons faire pour goûter et voir. Mettre les paris sur toute cette bonté de Dieu, et aussi miser sur sa grâce qui est immense. Et alors, une fois qu'on a fait ces deux choses, on peut dire, oui, je ne me suis pas trompé à mettre ma confiance dans ce grand Seigneur. Non, je ne le regrette pas et je m'emploie à le servir en toutes choses. Deuxièmement, goûter et voir, qu'est-ce que ça signifie encore? Ça signifie que cette bonté, sur cette bonté, sur cette grâce, nous devons construire toute notre vie. Toute la vie que le Seigneur nous donne à vivre, nous devons la centrer sur ces deux choses-là. La bonté et la grâce de Dieu. Et c'est, si nous mettons en pratique ces choses-là, notre vie, il sera une vie agréable au Seigneur. Et nous devons, en tant que chrétiens, car si nous ne faisons pas cela, qui le fera? Nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Lorsque nous nous sommes approchés de lui, nous avons goûté cela. Nous avons senti quelque chose en nous qu'il était en train de changer. Hein? Et nous avons vu, nous avons constaté que depuis le Seigneur est là, les choses, ils vont de mieux en mieux. Par rapport à Dieu, attention, je ne parle pas par rapport au monde. Hein, car Paul il nous le dit, toutes choses concourent au bien. Des fois on dit, Seigneur, merci pour cette journée. Oh, quelle mauvaise journée, cette pluie et tout ça. Merci Seigneur pour tout cela. Car c'est toi qui nous la donnes. Voilà ce que ça veut dire ces deux choses-là. Et c'est une question que je me suis posé et que je vous pose aussi. Avez-vous goûté et vu, constaté combien le Seigneur est bon? C'est ça que nous devons constater dans notre propre vie. Et ici, il faut aller plus loin, pas seulement constater, pas seulement voir ou goûter, mais il faut aller plus loin. Et comment on va plus loin? Regardons toujours dans psaume 34, on va lire les versets, parce que nous allons les décortiquer, on va tout y passer. On va lire le verset 5, 6, 7 et 11. Alors voilà ce qu'on lit. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez Dieu, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors, premièrement, le Seigneur il nous a invités à goûter et à voir. Ici, dans ce verset, il nous invite au verset 5. Il nous dit, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Vous savez, quand on perd quelque chose, où est-ce qu'on va? Hein? On connaît Paris, hein, rue de Morillon, n'est-ce pas? C'est là qu'on essaie de trouver. Et là, on espère de les trouver. Et si on va, et si on cherche, c'est parce que la chose qu'on a perdue, il nous est cher. Hein? C'est un souvenir, c'est quelque chose. Alors, on la cherche. Et vous savez, c'est là. Pourquoi est-ce qu'on la cherche? Parce qu'elle a de la valeur. Et dans la Bible, le mot « chercher » apparaît à maintes reprises. Mais il y a plusieurs, et il est associé à plusieurs notions différentes. Par exemple, il signifie d'abord « demander »,« s'enquérir de », »,« examiner ». Et il est toujours un verbe en mouvement. Ça veut dire quoi, ça? Que c'est un verbe en mouvement. Car lorsque on cherche, on n'est pas statique. Si on cherche, on doit être en mouvement. Il y a des gens, même des chrétiens, qu'ils disent, ils n'ont pas de travail. Ils restent couchés, Seigneur, donne-moi un travail. Et ils restent couchés ou à la maison. Le mot chercher, ce n'est pas statique. C'est un mot qu'il y a du mouvement. Hein? C'est un mot qui s'implique. Comme on dit, on se mouille. C'est une fois qu'on s'est mouillé que le Seigneur il intervient. Demandez, c'est ce qu'il nous a dit Jésus, hein? Demandez et vous trouverez. Si on ne demande pas, Dieu ne nous donne pas. Donc chercher sa face, hein? Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer à chercher Dieu. Hein? Et il nous le dit, David, au verset 5, il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Pourquoi il m'a répondu? Parce que je l'ai cherché. Parce que je l'ai cherché. Hein? Lorsqu'on étudie la Bible, qu'est-ce que c'est que le Seigneur dit? « Cherchez-moi, étudiez-moi, méditez-moi cette parole et je vous révélerai de grandes choses. » Mais il faut chercher. Il faut l'étudier. Si nous ne le faisons pas, comment voulez-vous aller annoncer à quelqu'un que le Seigneur est bon, ce qu'il est, ce qu'il a fait, si vous ne connaissez pas? Ces grandes choses, le Seigneur, il nous les révèle lorsqu'on le cherche. On le cherche. Et c'est ça que le Seigneur il nous dit. Dans Amos, il nous a dit, « Cherchez-moi et vous vivrez. » Et dans le verset suivant, il dit, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot « chercher Dieu » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des fois qu'il faut revenir au Seigneur. Parce que on n'est pas constamment auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Je l'ai constaté dans ma vie, et vous aussi, je suppose que ça vous est arrivé de vous trouver loin du Seigneur. Et le Seigneur, il nous dit de chercher la face de l'Éternel, c'est de nous réengager, ou sinon d'avoir un nouveau commencement, comme on est là, c'est le 2 janvier, voilà. Peut-être que j'ai jamais rien fait pour le Seigneur, pour mon Église, je veux m'y mettre. C'est un réengagement. Ou sinon, c'est aussi de revenir au Seigneur, qu'on l'a abandonné, on s'est éloigné. Par les péchés, par le monde. Et alors, je cherche le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous faire revenir. Il n'y a que lui qui peut nous faire revenir. Donc, il nous dit, cherchez-moi. Et il nous a dit dans Ésaïe 55, 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est le moment de le chercher. Parce qu'on est ici, sur cette terre. Parce que bientôt, la patience de Dieu, il va s'arrêter. Et on n'aura plus ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ils ne se tournent pas vers lui maintenant. Ils n'auront plus l'occasion parce que la porte, il va être fermée. Et si Esaïe nous le dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le. Tandis qu'il est prêt, il est près de nous. Il est près de nous. Je suis avec vous tous les jours. Il est près de nous. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme de rien s'est pensé, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Vous voyez, c'est là qu'on dit, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Malgré tous nos manquements, malgré tous nos péchés qu'on fait, on retourne vers le Seigneur et il nous pardonne. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère, ma sœur? 7 fois, voilà. Il était large, le Seigneur, 7 fois. Le Seigneur, c'est encore plus, il dit, pas 7 fois, mais 49 fois, 7 fois. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous pardonne constamment. Et alors, nous devons pardonner aussi. Et c'est ça que le Seigneur, il nous dit, cherchez l'Éternel. Dans Sophonie, chapitre 2, 3, il dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre. Vous tous, humbles de la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot humble là? Qu'on voit notre misère. On ne voit pas le moi. Mais on voit que le Seigneur. C'est là, être humble. Voilà pourquoi nous devons chercher le Seigneur. Et Matthieu 6, 33, que vous tous connaissez, hein, cherchez d'abord les royaumes de Dieu. C'est tout des choses. Chercher le Seigneur signifie aussi se convertir. Parce que pour être servi, pour être sauvé, il faut se convertir. Il faut, en se repentant. Aujourd'hui, le mot convertir, il est utilisé dans la façon de se convertir lorsqu'on change de religion. Mais ce que le Seigneur dit, ce n'est pas un changement de religion, mais c'est se tourner vers la seule et unique personne. Parce qu'il y a des religions dans lesquelles beaucoup, ils font confiance et ils sont perdus. Esaïe nous le dit, malgré leur sincérité, ils sont perdus. On peut dire, je suis sincère, moi. Je crois en Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, tu es perdu. Il faut le chercher comme il faut. Et comment est-ce qu'on le cherche? En s'humiliant devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous, les hommes, les femmes aussi, hein, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que, ben, il y a un autre moi. Hein. Mais Jésus, à la croix, il a tué ce moi. Hein? C'est marqué dans notre... dans la langue française. C'est marqué « J'ai tu il hein? ». C'est ça qu'on dit le verbe, le pronom personnel, je crois. Oui, oui. Et « J'ai tu il ». Et c'est exactement ce que nous devons faire. Pour le Seigneur, c'est à l'envers. « Il, tu, j'ai ». Et ça, c'est une décision de notre part. Et c'est ce que le Seigneur il fait pour chacun de nous. Il faut se chercher l'Éternel, se tourner vers lui. Et il nous a dit, hein, si nous faisons cela, si nous cherchons l'Éternel, notre visage, il va rayonner. Un peu comme Moïse, lorsqu'il a eu ses contacts avec Dieu sur le mont Sinaï. Il est redescendu et son visage, il était très lumineux. Les gens, ils pouvaient même pas le... Alors, il a mis un voile sur son visage. Pourquoi? Parce que le rayonnement de la gloire de Dieu, il s'est déversé sur lui. Voilà ce que le Seigneur, il nous dit. Et il nous dit encore autre chose. Le verset 10, toujours 34, hein? 10, 12, 13, 14 et 15. Voilà ce qu'il dit. Craignez l'Éternel, vous, ce saint. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire de prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais les biens. Recherche et poursuis la paix. Ici encore un appel à chacun de nous à faire quoi? À craindre Dieu. À lui obéir. À lui obéir. Comment? En s'écartant du mal. En s'écartant du mal. Voilà la suite logique de ce qu'on a vu. C'est la suite logique. En effet, si on recherche la face du Seigneur, sa présence, on désire qu'une seule chose, c'est s'éloigner de tout ce qui est mauvais tout autour de nous. Et vous savez, craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Non. Mais c'est avoir peur des péchés contre Dieu. Pourquoi? Parce que on sait que Dieu est bon. Ça vous est jamais arrivé, à moi ça m'est arrivé, de me dire, oui, c'est pardonne-moi, parce que malgré toutes les bénédictions, malgré toute ta bonté, ta grâce que tu déverses à moi, je n'arrête pas de pécher contre toi. Eh oui, on sait ce que le Seigneur est. C'est ça, craindre. Avoir la crainte de Dieu, avoir peur de pécher contre Dieu, de ne pas l'honorer comme il faut, de ne pas l'honorer comme il faut. Et pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Maître Souverain, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est de lui qui viennent toutes choses. C'est lui le créateur. Alors, nous, pourquoi devons pécher contre lui? Nous qui avons été sauvés. Lui qui a été si bon et qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Voilà ce que ce psaume nous dit, de craindre Dieu, lui obéir, comment? En s'écartant du mal. Et au verset 14, il nous a dit de suivre ses commandements, suivre ses ordonnances. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il nous l'a dit, c'est lui qui me suit, ce n'est pas celui qui connaît mes commandements, mais c'est celui qui les met en pratique. Eh oui, parce que connaître la Bible par cœur, ça ne vaut rien. Mais par contre, mettre en pratique la Bible, alors là, c'est là qu'on est rendu agréable à Dieu. C'est là qu'on est rendu agréable à Dieu. Voilà encore. Mais il y a autre chose dans ces psaumes. Regardez le verset 5, 6, où il y en a plusieurs. Je vais le lire. Hein. Le verset 5, 6, 7, 8, il dit... Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie, et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute détresse. Versets 10 et 11. Et il nous a dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car il ne manque rien à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Versets 16 et 18. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Les malheurs tuent les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tous ces versets qu'on vient de lire, on voit une seule chose, c'est que Dieu y répond aux prières. Les justes. Dieu répond aux prières. Si vous avez remarqué, tous les verbes qui sont utilisés, il y en a 12 hein, dans tous ces versets, hein, ils mentionnent que Dieu, il répond aux prières. Par exemple, le verbe employé pour Dieu, c'est répondre, arracher aux frayeurs, arracher aux détresses, entendre, sauver, délivrer, ne manque de rien, être attentif, être prêt, garder, libérer. Oui, Dieu entend les prières et il agit, et il agit. Certes, Dieu ne répond pas toujours hein, comme on le souhaiterait. Mais oui, des fois on dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu attends? Tu vois pas ma misère? Tu vois pas dans quel état je suis? Et pourtant, je vais au culte, je vais aux études, je te prie. Qu'est-ce que tu attends? Comme il disait âgé, il disait ça. Qu'est-ce que tu attends? Mais encore une fois, Dieu, il a son temps. Et là, c'est encore une question que je me suis posée, que je vous pose aussi. Hein? En sommes-nous convaincus et conscients? Des fois, on se met en colère, n'est-ce pas? Lorsque la réponse n'arrive pas. Mais il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Il connaît ce dont nous avons besoin. Et quand nous en avons besoin, nous ne connaissons rien. Voilà pourquoi. Et cet aspect-là de savoir que Dieu y répond, hein, ça veut dire que si on prie, c'est qu'on recherche Dieu. c'est que tout autour de nous, on a constaté qu'il n'y a rien et personne d'autre qui peut nous venir en aide. Il n'y a que Dieu. Hein? Dieu répond aux prières de ceux qui s'approchent de lui, mais avec sincérité. Sincérité. Et pas dire, oui, je te prie, mais je ne sais pas si... Non. Lorsqu'on fait une prière, on sait que Dieu... À la fin de la prière, on doit déjà dire, merci Seigneur. Car vous savez, un non, une réponse non à la prière, c'est déjà une réponse. Hein. Voilà pourquoi c'est très important. Il faut s'accrocher à Dieu. S'accrocher, le chercher, un peu comme la femme qui avait la perte de sang. Vous en souvenez? Hein? Elle était par terre, les gens autour d'elle. Alors il essayait de toucher. Il avait un elle, il disait, si seulement je touche le vêtement de Jésus, je vais être guéri. Et il l'a touché. Mais personne ne s'en est aperçu, sauf Jésus. Et lui, il a dit, quelqu'un m'a touché, les apôtres. Mais écoute, regarde les gens qu'il y a autour de toi. Non, je sais que quelqu'un m'a touché parce que de moi, il est sorti une force. Et cette force, il a donné la santé à cette femme. Pourquoi? Parce qu'il l'a touché avec foi. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Hein? S'approcher de lui. Et ça me rappelle aussi le Jean 15, hein, vous savez, où le Seigneur, il dit qu'il est le vrai cep. Il dit que ceux qui sont attachés à lui, la sève, il va automatiquement couler. Et c'est à ça que nous devons faire. Rester attachés au Seigneur, malgré tout ce qui peut nous arriver. Malgré tout ce qui peut nous arriver. Hein? Un chrétien, on lui avait dit de parjurer le nom de Jésus. Parjure Jésus et tu seras sauvé. Il a dit, comment pourrais-je parjurer celui qui pendant 90 ans, il m'a soulagé, il m'a sauvé et il m'a aidé en toutes choses. Comment? Des fois, je me pose la question moi-même, qu'est-ce que j'aurais répondu? Abjure ou je vais te tuer? Faut avoir une foi ferme. Hein? Et c'est là que le Seigneur, comme il nous a dit, il est près de ceux qui le prient. Les anges de l'Éternel, ils campent autour de tous ces gens-là. Hein? Voilà une promesse qui nous fait du bien, mes frères et sœurs, de savoir que le Seigneur, il est près de nous en toutes circonstances. Et il ne demande que ça, vous savez. Hein? Et ensuite, pour terminer, il y a les versets 17 à 22. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel l'entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échapperont au châtiment. Encore, ce qui nous montre encore ici ces psaumes, hein, c'est que Dieu juge les méchants. Des fois, ça nous arrive, n'est-ce pas? Pourquoi il m'arrive cela? Regarde-lui. Il mène une vie de païen, une vie de débauche et tout ça, et il a tout ce qu'il lui faut. Il est en pleine santé. Et moi, ces psaumes nous montrent que Dieu, il va juger ces gens-là. Ils n'échapperont pas. Non seulement Dieu répond à nos prières, non seulement Dieu, on est sûr que Dieu il va nous répondre, mais Dieu il va intervenir. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se disent, oui mais un jour, même s'ils ne croient pas, mais ils ont cette sensation qu'un jour les choses iront bien. Hein? Et donc, oui, La Bible nous le dit que Dieu, un jour, il va juger les méchants. Et c'est cela aussi, parce que il juge les justes, mais les justes, ils sont à l'abri de la colère de Dieu. Mais ceux qui sont méchants, n'oublions jamais cette vérité. Il y a des gens qui disent, oui, mais comment un Dieu, tu me dis qu'il est amour, il peut envoyer des gens à l'enfer. Il peut condamner des gens. Mais c'est justement pour cela qu'il faut croire. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais il est aussi un Dieu de justice. Vous me direz, il pourrait sauver tout le monde. Oui, il pourrait. Mais si quelqu'un, pendant sa vie, il ne l'a jamais aimé, il n'a jamais apprécié les commandements de Dieu, pourquoi voulez-vous que Dieu, il le prenne dans son paradis? Il ne peut pas le faire. Parce que Dieu nous l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et tout son péché. Et même il lui dit, il n'y a pas qu'un seul juste. Il y en a eu, et qu'est-ce qu'il a fait le monde? Il l'a tué. Mais cette mort a été notre sauvetage. Parce que par sa mort, nous avons été guéris. C'est bien que ce Dieu il soit un Dieu d'amour et un Dieu de justice, car Dieu y rendra à tous ce dont nous avons fait. Voilà ce que ce psaume il nous dit. Hein? Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Est-ce que Dieu est notre refuge? Si c'est oui, sachons que nous ne serons pas condamnés. Jamais. Mais ceux qui dédaignent Dieu, ceux qui suivent le Seigneur, alors ceux-là, ils vont payer chèrement. Voilà quelque chose de très important à connaître. Et dernièrement, c'est la conclusion. Hein? C'est les versets 2, 3 et 4. Hein? Lisons-le, ce verset. Il dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Ici, pour conclusion, il donne, David, il donne ses bénis conseils. Il dit, louez l'Éternel, bénissez l'Éternel, exaltez le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit. Si vous voulez, ces trois versets, c'est le début de ces psaumes. Hein? C'est un commencement, mais ça peut être aussi la conclusion de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Si nous avons goûté et vu et constaté ce que le Seigneur, que le Seigneur est bon. Alors, c'est aussi une conclusion. Pour conclure à ce que nous avons vu, qu'est-ce que c'est qu'il dit David? Ben voilà, je veux bénir l'Éternel. Et il dit au verset 2, il dit, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Hein? Il nous a dit, en tout temps, toujours. Ça rejoint un peu ce que Paul il nous dit hein, dans le chapitre 4:4. Hein, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et ensuite David, il dit au verset 3 « Je vais le bénir, je vais le louer de toute mon âme. » De toute mon âme. Comme on dit, avec toutes nos tripes. Et pas penser à autre chose. Que tout notre être, il soit derrière cette louange, cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on a goûté que le Seigneur est bon, malgré tous nos manquements. Et au verset 3, deuxième partie, il dit, je veux le bénir, je veux le louer avec humilité, sincèrement et sans orgueil. C'est ce qu'il dit David, hein? Et quatrièmement, il dit, je vais le bénir, je vais le louer, je vais l'exalter, le Seigneur. Au verset 4, il dit, en communauté, dans l'assemblée. Et il dit à l'assemblée, aux ceux qui l'écrivent, il dit, magnifiez avec moi, chantez avec moi, louez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. Au verset 4, il nous a dit, ensemble, en communauté. Voilà ce que ces psaumes, il nous dit, des choses très merveilleuses. Et encore une fois, si nous avons goûté et si nous avons vu et constaté que le Seigneur est bon, alors ne réchignons pas. Jetons-nous entre ses mains d'amour, car il n'attend qu'une seule chose, c'est de nous serrer avec tendresse, car nous sommes ses enfants. Je crois que je l'ai fait, moi, avec ma fille, et vous aussi avec vos enfants. Des fois, vous le serrez dans vos bras et vous bénissez le Seigneur. Vous êtes content, vous êtes dans la joie. Et Dieu, c'est pareil pour nous, si on fait sa volonté. Voilà le message que j'avais préparé. Et c'est aussi un encouragement pour cette nouvelle année. Que nous puissions goûter et voir que le Seigneur est bon. Il a été bon dans le passé. Ebenezer, n'est-ce pas? En Samuel, jusqu'ici, le Seigneur, il a pourvu. Et il va pourvoir aussi cette nouvelle année. Alors, pour le remercier, tournons-nous vers lui. Car il mérite toutes ces choses-là. Et si nous le faisons, nous recevrons de lui toute bénédiction. Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment. C'est un psaume à réfléchir, à lire lorsque nous sommes en difficulté. Et ces psaumes nous montrent ce qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait et ce qu'il fera. Amen. Je crois qu'il est encanté.